Suivez votre émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, la référence du paiement de facture via le mobile.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
L'entrée en vigueur de la ZLEC est l'événement le plus important dans la vie de notre continent depuis la création de l'OUA en 1963. Voilà les propos tenus hier à Niamey en ouverture du sommet de l'UA par le président nigérien Mahamadou Issoufou. La ZLEC, la zone de libre-échange continentale, l'idée est d'unir tous les États africains pour constituer un marché d'1,2 milliard de consommateurs, en facilitant le commerce intra-africain. Car l'Afrique est finalement un continent qui n'échange quasiment pas avec lui-même. Le commerce inter-africain ne représente que 17% des échanges. 17%, on est donc bien loin des 60% en Asie ou encore des 70% en Europe. Alors certains diront, mais la ZLEC, c'est un projet très ambitieux, trop ambitieux pour un continent comme l'Afrique. En tout cas, ce projet entrera pleinement en vigueur dans un an. D'ici là, il va falloir certes harmoniser les règles douanières. À terme, il faudra évidemment des routes en bon état, des infrastructures ferroviaires et maritimes pour évidemment transporter toutes les marchandises. Les défis à relever sont donc nombreux. Alors dites-nous si vous croyez vraiment en ce projet. Le marché commun africain permettra-t-il de développer le continent et quelles retombées économiques finalement pour vos pays respectifs? 33 9 693 693 70. Vos réactions, et je suis ravi de voir que ce sujet ne vous laisse pas indifférent. Vous êtes nombreux sur Facebook et WhatsApp à poster des commentaires. Je lirai évidemment quelques-unes de vos réactions pour alimenter le débat. Mais d'abord, Roselin est avec nous. Il nous appelle de Ouagadougou. Bonjour Roselin.
Oui, bonjour Juan.
Et pour vous, il n'y a pas de doute. La ZLEC représente une grande opportunité pour l'Afrique.
Oui, tout à fait. Comme le commentaire ou le reportage l'a si bien indiqué, il est très important aujourd'hui pour nous, les pays africains, de savoir que la ZLEC rentre en vigueur. La zone de libre-échange continentale africaine rentre en vigueur parce que ça permettra de créer un marché commun africain. Et ce marché commun africain permettra de rendre l'économie africaine assez viable, permettra aujourd'hui aux pays africains de pouvoir développer encore d'autres stratégies, de pouvoir mettre en commun, de fédérer, comme l'avaient pensé les pères fondateurs, les panafricanistes, et pour pouvoir faire face à l'invasion de l'Occident. Et je crois que cela permettra aussi aux différents États de pouvoir raison garder et faire taire une partie de leur souveraineté et de penser effectivement à la viabilité de l'Afrique. C'est vrai qu'en pensant de le libre-échange, les États pourraient penser qu'elles perdront, notamment pour ce qui concerne les droits de porte, les droits d'entrée, les importations, les taxes qui seront perçues. Mais je crois que lorsque nous lisons l'accord, il y a un mécanisme de compensation qui sera mis en œuvre. Bien entendu, et cela permettra à chaque État, ou du moins dans le cadre de l'Union africaine, de développer les moyens de communication, les moyens de transport,
bah oui,
notamment la voie ferrée.
Alors Roselin, vous appuyez là où ça fait mal, les moyens de transport, mais si nous prenons par exemple un pays comme le vôtre, le Burkina Faso, qui produit du coton, aujourd'hui l'essentiel de la production de coton est exporté à l'étranger sans même avoir été transformé sur place. Est-ce que l'avenir ne passe pas justement par l'industrialisation de votre pays et notamment de ce secteur, le secteur du coton?
Mais bien entendu, mais cette industrialisation, si nous n'avons pas un marché qui pourra consommer, c'est ce qui fait que les gens exportent. Mais aujourd'hui que la libre, cet ensemble semble être viable, je crois qu'il faut que les États y songent. On ne peut pas avoir de développement sans penser effectivement à la transformation locale.
Bien sûr.
Transformation au plan local va apporter de la valeur ajoutée. Et cette transformation permettra aujourd'hui de créer les circuits économiques, de créer tout un environnement autour. Et je crois qu'il serait intéressant de créer des pôles. Les pays, par exemple, à forte dominance pour la production du coton, pourraient se regrouper ensemble et créer, par exemple, une industrie et puis échanger avec les autres États de l'Union africaine.
Et à terme, donc inonder le marché africain de vêtements, de tissus fabriqués, transformés, créés sur place en Afrique de l'Ouest notamment. Vous parliez d'un pôle de pays producteurs de coton. J'imagine que dans ces pays-là, dans ce pôle, on peut inclure également le Mali, la Côte d'Ivoire et donc le Burkina Faso. Merci Roselyne d'avoir lancé le débat. Alpha Amadou, bonjour.
Bonjour Juan.
Est-ce que vous comprenez et surtout est-ce que vous partagez l'optimisme de Roselyne à l'instant?
Je suis pessimiste quant à la réussite de la SLEC. J'ai l'impression que nos chefs d'État sont toujours dans la rhétorique d'autosatisfaction. L'Afrique doit se prendre en main et marcher comme c'est bien pour l'Afrique comme à l'instar des autres continents. Mais toujours est-il que nous mettons la charrie avant le bœuf. Un grand contemporain comme l'ancien président sénégalais, Maître Abdoulaye Wade, disait toujours que l'intégration politique précède l'intégration économique. Et pour l'instant, j'ai peur que la SLEC ne nous jette dehors, nous, pays africains, au profit des multinationales asiatiques et occidentales.
Pourquoi? Concrètement, l'Afrique n'a pas les moyens aujourd'hui de s'industrialiser, de développer des infrastructures routières, ferroviaires, maritimes, et donc justement de créer ce marché commun?
Mais attendez, Juan, vous prenez un pays comme la Guinée, et du côté agroalimentaire, il n'y a rien. Des énergies, rien. Des voies ferroviaires ou routières, il n'y a rien, absolument. Ce que nous devons produire aujourd'hui, c'est la bauxite. Et nous exportons la terre brute. Quel pays africain en a besoin d'une terre brute aujourd'hui, aussi riche qu'en bauxite ou autre? Il n'y a rien. Donc l'intégration africaine demande toujours la bonne gouvernance. La bonne gouvernance et le développement. Sinon, on ne peut pas parler d'un marché commun. Ça ne fera que profiter aux multinationales occidentales.
Ouais, c'est votre crainte principale. Plusieurs réactions qui vont dans le même sens hein, sur WhatsApp et Facebook. Emmerich est dubitatif. Il nous dit déjà que la CEDEAO a du mal à mettre en pratique la libre circulation des biens et des personnes. Je suis tenté de dire que la SLEC, le marché commun qui se profile à l'horizon, sera... est mal barré, estime cet auditeur qui nous écrit de Lomé au Togo. André affirme lui aussi que la libre circulation n'est pas effective dans les ensembles sous-régionaux. Le cas de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, en est l'illustration. La SLEC est donc un enfant mort-né, affirme cet auditeur. Vous êtes d'accord avec eux, Alpha? Donc, à quoi bon espérer mettre en place ce marché si c'est une coquille vide?
Je pense que nos dirigeants, nos chefs d'État ont toujours un manque de volonté politique. En juillet 2016, on avait parlé d'un passeport africain. Et jusqu'à présent, je ne pense pas, à part le président tchadien Idriss Déby et Paul Kagame, oui. Je ne pense pas à une autre personne qui a reçu le passeport.
Oui, donc, ces deux personnalités avaient reçu ce passeport africain symboliquement. Je crois que l'un était le président sortant de l'Union africaine et l'autre le nouveau président de la présidence tournante de l'UA. Donc voilà, effectivement des passeports symboliques et on attend toujours la suite. Vous avez donc raison d'être sceptique. Alpha Amadou, bonne journée. Je vous interromps, il y a beaucoup de monde qui souhaite prendre la parole ce matin sur ce sujet. HK nous a contacté de Libreville au Gabon. Nous l'avons donc rappelé. Bonjour HK.
Bonjour Juan Gomez.
Alors, dubitatif ou optimiste?
Mais écoutez, je suis extrêmement pessimiste et très critique. Voilà, je pense que c'est encore là un effet d'annonce. Hein, parce que moi, je constate effectivement qu'on nous miroite beaucoup d'avantages. L'extension des marchés, les économies d'échelle. Mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est qu'en fait, ne cherche un marché que celui qui a un produit à proposer et qui a la possibilité de l'atteindre, ce marché-là. Voilà, comment développer un commerce intracontinental dans un continent qui consomme ce qu'il ne produit pas et qui produit ce qu'il ne consomme pas? Voilà.
Mais un pays, parlons concret, HK, vous êtes au Gabon, un pays comme le vôtre, que peut-il exporter, par exemple?
Au jour d'aujourd'hui, le Gabon ne peut réellement rien exporter. Parce que l'essentiel la production du Gabon, c'est quoi? C'est les matières premières. C'est le pétrole, c'est le bois, le manganèse. Quel est ce pays africain qui va importer le manganèse du Gabon et pour en faire quoi véritablement? Voyez-vous?
Oui, mais enfin, avec ce bois, excusez-moi, c'est un bois précieux. Avec ce bois, on peut construire des meubles, des bateaux. Enfin, je suis pas un spécialiste, mais enfin, il y a moyen de transformer ce bois sur place.
Mais il y a moyen, mais il faut commencer à le faire justement. faut commencer entre le dire et le faire, il y a deux choses, il y a quand même un précipice. Donc au lieu d'en parler, de raconter qu'on peut, je pense qu'il faut commencer par transformer ces produits à l'interne. Une fois qu'on aura transformé, on va alimenter le marché intérieur de chaque pays, et après on ira au marché sous-régional. Ça doit aller progressivement. Mmh. Voilà, se lancer comme ça dans une zone continentale, je pense que c'est une aventure sans issue. C'est encore là la charrue avant le bœuf, comme disait le
précédent auditeur. Oui, effectivement.
Voilà, je pense qu'il y a des préalables. Oui. Il n'y a pas de route. Il y a l'insécurité dans beaucoup de pays. On va échanger quoi par rapport à quoi et comment? Je pense que les Africains sont extraordinairement dans des effets d'annonce. On n'en parle plus. On nous a dit, le NEPA, c'est un grand projet pour l'Afrique. Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Et nulle part. Voilà. Et je pense que c'est encore une mort-née, là, avec cette zone-là. Et dans 2-3 ans, on n'en parlera plus.
Bon, en tout cas, Victor, qui nous écoute à N'Djamena, il est donc au Tchad. Il nous dit que ce projet, s'il est effectif, pourra permettre à son pays, le Tchad, d'importer et d'exporter ses produits. Cependant, nous dit Victor, je suis dubitatif quant à la concrétisation de ce gigantesque projet, car les expériences sous-régionales ont montré la volonté, la mauvaise volonté de certains États économiquement avantagés à ne pas ouvrir leurs frontières aux autres. Enfin là, il s'agira bel et bien d'un marché commun. Donc il va falloir ouvrir les frontières. Tout ça prendra du temps. Les pays les plus pauvres auront des délais évidemment un peu plus importants et plus longs pour supprimer les barrières douanières. Tout ça doit se négocier hein, dans les prochaines semaines, les prochains mois, puisque pour l'instant le projet n'est pas officiellement lancé. Voilà, c'est la phase opérationnelle. On va discuter. Les discussions seront d'ailleurs très techniques dans les prochains mois. Et dans un an, la ZLEC entrera officiellement en vigueur. Donc d'ici là, il va falloir que, effectivement, chacun y trouve ses intérêts et son compte. Un pays comme le Nigeria, il faudra qu'il trouve les mêmes intérêts qu'un pays comme la Guinée, par exemple, dont on parlait tout à l'heure avec un auditeur. Boubou, bonjour.
Oui, bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs.
Vous êtes à Bamako, et un pays comme le vôtre a tout intérêt à ce que la ZLEC entre en vigueur. C'est ce que vous disiez hors antenne, au standard, d'autant que votre pays, je lis ma petite fiche, n'a pas accès à la mer.
Oui, bien sûr, pas ça, c'est seulement ça, c'est le cas du Mali, parce que pour nous, principalement, il y a la question des infrastructures et la question des désenclavements aussi qui se posent. Mais dans un cadre beaucoup plus général, je pense que c'est une bonne opportunité, mais déjà il faudrait revoir le modèle économique en place. Je pense que nos États devraient aller plutôt vers une vision globale pour une économie de production, pour justement permettre à ce que nos pays qui vont créer ce vaste marché de plus d'un milliard de consommateurs puissent échanger des produits finis ou des produits semi-finis.
Oui.
Parce qu'on le disait tout à l'heure, le coton qui est produit au Burkina, on ne va pas le manger. Il faut pouvoir le transformer. L'autre opportunité aussi, c'est que ça donne un grand pouvoir de négociation. Ça donne un pouvoir de négociation pour les exportateurs africains face à la balance mondiale dans la fixation des tarifs.
Mmh.
Mais pour cela aussi, il y a encore des préalables. Il va falloir que les choses soient normalisées, qu'on puisse avoir un standard de produit, qu'on puisse avoir une norme pour tous les pays à laquelle tous les pays se plieront pour pouvoir exporter beaucoup plus facilement.
Mmh.
Donc, au-delà des opportunités, les enjeux sont énormes. Il y a aussi la question de la monnaie. La question de la monnaie. Voilà,
c'est-à-dire
de la parité de la monnaie.
Mmh.
La question de la monnaie, ça dit que tous ces pays, d'abord, n'ont pas les mêmes monnaies. Donc, nous allons encore fixer certainement nos prix à l'export sur le cours mondial par rapport à l'euro ou par rapport au dollar.
Mmh.
Une économie que nous ne maîtrisons pas.
Oui. Mais c'est intéressant, hein, quand vous parlez de monnaie, c'est intéressant. J'ai sous les yeux le commentaire de Seydou qui nous écrit d'Abomey Calavi au Bénin. Il s'interroge, lui, il n'a pas la réponse. Il nous dit, mais la diversité des monnaies au sein de la ZLEC ne constitue-t-elle pas un frein parmi tant d'autres pour une véritable mise en place de ce projet? Voilà une bonne question. Eh bien, écoutez, Seydou, vous savez quoi? On va essayer de vous rappeler. On va peut-être trouver un expert pour vous répondre. Boubou, merci d'avoir appelé. Bonne journée à Bamako, où il est déjà 8h54. Dexter, bonjour.
Bonjour, Juan.
Alors, vous posez beaucoup de questions. Vous vous dites, je ne sais même pas ce que mon pays, le Congo-Brazzaville, va pouvoir exporter.
Exactement, Juan. Mais d'abord, il faut dire une chose, l'initiative elle est bonne, parce que ce marché va nous sortir un peu des axes commerciaux hérités de l'époque coloniale. Mais ceci dit, je pense que quand il y a zone de libre-échange, il faut que les pays...
Vous savez, excusez-moi, Dexter, ne raccrochez pas, on vous entend mal, le réseau s'est dégradé à vitesse grand V. On s'occupe de vous hors antenne. Mansour, vous êtes en région parisienne, bonjour.
Oui, bonjour, Juan.
Alors, vous vous êtes présenté au Standard en tant qu'agronome, donc vous avez une lecture bien spécifique de la SLEC, et pour vous, c'est une bonne idée, ce marché commun africain.
Oui, moi, du fait que je suis un afro-inconditionnel, donc je ne peux être optimiste. Et moi, je me dis qu'en fait, les instruments politiques, on doit les mettre en place. Parce que c'est ce que l'Europe a fait quand ils avaient des difficultés de s'organiser, de surpasser les difficultés et de mettre en place quelque chose qui, malgré les difficultés, aujourd'hui tient la route. C'est ce que l'ALENA a fait. Et aujourd'hui, on compte dans le monde plus de 150 accords de libre-échange dans le monde. Donc moi, je me dis que la mise en place de zones de libre-échange continentales africaines, c'est une bonne chose. Mais en fait, ce que les auditeurs avant moi ont constaté, c'est que aussi quand même, il y a des fois quand on met quelque chose en Afrique, l'avancée est très timide, ou bien des fois même, ça n'avance pas du tout. On a vu le Népal, les grandes murailles vertes qui ont été initiées, et tout ça, ça passe pas.
Oui. Mais en tant qu'agronome, pourquoi dites-vous que c'est une bonne chose? Parce que vous aviez envie de parler de ça. Justement.
Oui, j'avais envie de parler de ça parce qu'aujourd'hui, la majorité des pays africains, ils importent des céréales ou bien d'autres produits pour approvisionner en fait les industries comme la production de farine, la production de pain, des trucs de ce genre. Et moi, je me dis qu'il y a beaucoup de pays africains aujourd'hui qui ont la potentialité de produire des céréales pour d'autres pays africains. Et par exemple, si on prend l'exemple de l'Éthiopie qui est à 3000 mètres d'altitude, l'Éthiopie peut aujourd'hui produire des céréales pour le Sénégal qui demande beaucoup de blé à la France pour produire en fait de la farine.
Oui, mais ensuite, excusez-moi Mansour, ensuite une question très pratique, il va falloir transporter ces céréales vers le Sénégal. Comment fait-on pour traverser l'Afrique d'est en ouest?
Voilà, c'est ça en plus. C'est ce qu'un auditeur a dit avant moi. Les infrastructures ferroviaires, des fois même et routières, ça c'est très important. Ça c'est, moi je pense, c'est à la base d'ailleurs.
Je pense que. Et faute d'infrastructures, le produit fabriqué, transformé en Afrique coûte bien plus cher qu'un produit importé d'Asie, par exemple.
Ouais, mais donc, du coup, eux, en tant que des acteurs politiques, ils seront obligés dans la mise en place de ZELEC, en se disant que pour mettre en place ceci, il faut au préalable faire cela.
Ouais. Vous savez que transporter, j'ai sous les yeux ce chiffre, il est emblématique et il en dit long, transporter une marchandise de Douala au Cameroun à N'Djamena au Tchad, c'est l'équivalent de 1500 kilomètres, transporter ce produit coûte 6 fois plus cher que de transporter le même produit de Douala à Hong Kong. À Hong Kong, 12 000 kilomètres plus loin. Merci à vous, Mansour, de cette analyse, de vos commentaires. Allez, on fait une deuxième tentative avec Dexter. Êtes-vous là, Dexter?
Oui, Juan, vous m'écoutez?
On vous entend, j'espère que le réseau ne va pas se dégrader. Donc vous disiez que le problème, c'est que vous ne voyez pas ce que votre pays, le Congo, peut exporter?
Exactement, je suis très ravi d'écouter les interventions des prédécesseurs. Vous savez, il y a une chose, on ne peut pas parler de la zone de libre-échange sans industrialisation. Donc, je reviens encore à ce qu'ont dit les autres, nous plaçons la charrue avant les bœufs de l'industrialisation. Oui. S'il n'y a pas d'infrastructure, comment allons-nous rendre effective cette zone de libre-échange? Un pays comme le Congo, où les produits de consommation directe, 95% sont exportés de l'extérieur.
Ah oui.
Donc, je vois en quoi cette zone va bénéficier au Congo si ce n'est que la vente des matières premières.
Alors, bon, Dexter, je suis désolé, je vous interromps une deuxième fois. Malheureusement, le réseau n'est pas bon. On aura essayé, vous comme nous. En tout cas, merci de votre fidélité. Le débat est loin d'être clos. Vous savez, il se poursuit sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de l'émission. Et on aura l'occasion vendredi, si vous le souhaitez, de prolonger la discussion. Et dans le courant de la semaine, quand vous voulez, si vous avez des questions pour mieux comprendre le fonctionnement de la ZLEC, acronyme donc Zone de Libre-Échange Continentale africaine, on serait tenté même de dire ZLECA. Hier, j'ai entendu plusieurs personnalités, en l'occurrence le président de la Commission de l'Union africaine, parler de ZLECA, donc il va falloir peut-être utiliser cet acronyme ZLECA plutôt que ZLEC à suivre. Merci à tous de votre fidélité. Demain, on parlera de la Coupe d'Afrique des Nations, puisque vous le savez, hier, Madagascar a fait sensation. Les Zébus se sont qualifiés en quart de finale en éliminant la RDC au tir au but. L'Algérie a également obtenu son ticket pour les quarts de finale en s'imposant face à la Guinée. Il ne reste plus